Pour lui, ce voyage est aussi l'occasion de communiquer avec les jeunes autour de la santé de la reproduction, sous couvert de l'institution pour laquelle il travaille, l'Office national de la famille et de la population. Son travail consiste à sensibiliser les jeunes sur la planification familiale, l'éducation sexuelle. Chaque rencontre offre à Eddy l'occasion d'exprimer ses convictions et de remplir sa mission. Alors, pendant que nous discutons de mécanique, d'orientation et de praticabilité des chemins, Eddy parle de désir, d'abstinence et de moyens de contraception. L'arrivée à Sousse est pour Karim et Eddy un retour en arrière. C'est là qu'ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient internes dans le lycée spécialisé pour non-voyants et malvoyants. Nous nous y rendons. Nous sommes à l'avant-veille du bac. Les plus jeunes sont déjà partis en vacances. Seuls restent les plus âgés qui préparent leur examen de fin de lycée. Notre arrivée coïncide avec la fin d'une journée de révision. Après 8 heures passées en salle d'études, les lycéens sautent sur l'occasion de se dégourdir les jambes. Dans la cour de l'établissement, nous enchaînons les baptêmes de tandem, pendant que Karim et Eddy racontent leurs 250 kilomètres parcourus depuis Tunis. Diego et moi tentons de maîtriser la fougue des lycéens lâchés pour la première fois sur un tandem. Deux d'entre eux souhaitent faire plus qu'un tour de cours. Avec l'accord de leur professeur et au grand soulagement de Eddy et Karim, qui gagnent ainsi une journée de repos, nous les emmenons pour des révisions buissonnières visiter le mausolée de Bourguiba et de sa femme Mathilde. Mardi 3 juin 2003, Sousse, Monastir, révision buissonnière. Ce mausolée se situe à Monastir, à une cinquantaine de kilomètres de Sousse. Nous laissons les bagages au lycée et partons avant les premières chaleurs. Karim et Eddy donnent d'ultimes conseils à leurs confrères, puis nous nous élançons. Fat et Yacine sont de bons amis. Ils aiment se confronter et se mesurer l'un à l'autre. Diego et moi jouons le jeu. Nous ne voulons pas décevoir nos copilotes respectifs. Ce trajet sera une lutte sans trêve entre Cyrano et Noisette. Des jambes de 20 ans appuient sans retenue sur les pédales. Yacine retrouve ses impressions de cycliste avant de perdre la vue. Il devait porter le maillot vert, celui des sprinteurs. Les visages rougissent, le souffle devient court. Une heure à plein régime et un finish en montée qui nous conduit au pied du mausolée de Bourguiba. Encore une fois, les autorités ont été prévenues de notre arrivée. Les portes du mausolée nous sont ouvertes, et c'est à tandem que nous avançons sur le marbre blanc et la colonnade du mausolée. Le gardien nous fait visiter le site. « Vous êtes français ?» La première femme de Bourguiba l'était aussi. Elle a divorcé pour montrer l'exemple aux femmes tunisiennes. Il poursuit. Elle s'appelait Mathilde. Le futur président l'a rencontrée à Paris quand il y étudiait le droit. Elle est enterrée à ses côtés. Nous en apprenons un peu plus sur l'homme qui rendit son indépendance à la Tunisie le 20 mars 1956. Une personnalité proche de Mendès France et des leaders politiques de l'époque, Eisenhower, De Gaulle, Nixon. Nous passons en revue l'évolution et le développement de la Tunisie, de l'époque des Beys, désignés par les sultans turcs, jusqu'à aujourd'hui, la Tunisie de Ben Ali. C'est le programme d'histoire de la dernière année du lycée. Finalement, Fat et Yacine révisent leur bac, de vraies révisions buissonnières. Nous revenons à Sousse à l'heure du dîner. Exténués par une journée bien remplie, nous serions bien allés nous coucher pour reprendre des forces et poursuivre notre aventure. Mais ce n'est visiblement pas l'avis des lycéens qui, comme la veille, ont envie de se défouler après une journée passée devant leurs livres. Ce soir, ce sera autour d'un poste de musique dans la chambre de l'un d'eux que nous passerons une bonne partie de la nuit. Eddy avait prévu de dormir au centre de tissage des femmes aveugles où nous étions la veille. Mais devant la demande des élèves et notre envie de rester encore quelque temps avec eux, il y renonce. Tant pis pour la garde nationale qui l'a décrété, seule responsable du groupe, et à laquelle il doit rendre des comptes sur nos faits et gestes. Une soirée au lycée, donc, dans une ambiance plus festive que studieuse. Chaque chose en son temps. Dans la journée, nous avons révisé notre histoire. Ce soir, nous dansons au rythme des Darbouka et du Mezoued. Du mercredi 4 au mercredi 11 juin 2003, Sousse Tabarka, un jour, un an. Notre périple se poursuit. De Sousse, nous rejoignons Kasserine, la ville d'où est originaire Eddy. Kasserine est située à l'intérieur des terres, non loin de la frontière algérienne. C'est une région de culture particulièrement active en cette période de moisson. Le long de la route, nous observons l'avancée des travaux des champs. À tel endroit, les épis sont encore sur pied, à tel autre, ils sont fauchés et sèchent au soleil. Un peu plus loin, ils sont rassemblés en bottes, prêts à être emportés et stockés pour l'hiver. La lumière rasante de fin de journée met en valeur ces paysages dorés. Nous décrivons autant que nous le pouvons ce qui nous entoure à Karim, qui est très demandeur de ces cartes postales, comme il appelle nos tentatives de description. À Kasserine, nous allons rendre visite aux collègues de Hedi, puis nous nous dirigeons vers le Djebel Chambi, point culminant de la Tunisie. Une route serpente jusqu'à son sommet. Nous en montons la majeure partie à tandem, mais renonçons à poursuivre devant la noirceur des nuages et la pluie qui se met à tomber. Quitte à être mouillé, nous nous arrêtons au bain, une source chaude, où allait Hedi quand il était plus jeune. Il faut être du pays bien informé pour les trouver. Aucun panneau n'indique ce qui se cache dans cette maison isolée. Au bout d'un chemin de terre rendu boueux et difficile d'accès par la pluie qui continue à tomber, derrière une vieille porte de bois sans verrou et sans poignée, nous découvrons trois pièces au mur suintant. L'atmosphère qui y règne est saturée d'humidité. Dans la première pièce, une baignoire de terre cuite est remplie d'eau brûlante. La seconde pièce est recouverte de carrelage. On s'y nettoie à l'aide d'un gant de crin, d'une écuelle et d'un seau que l'on remplit d'eau brûlante. Dans la dernière pièce, un homme assis sur un petit tabouret vous masse, vous étire, fait craquer vos articulations. Nous passons d'une salle à l'autre, nous délassant dans la baignoire, nous lavant dans la seconde pièce, appréhendant la dernière salle et les gestes rudes du masseur. Quand nous sortons, nos muscles ont retrouvé une nouvelle jeunesse. Nous pouvons repartir en direction de la Méditerranée. De Djendouba à Tabarka, un condensé d'impressions du voyage me fait écrire ces quelques lignes sur le journal de bord. Il y a des jours qu'on souhaiterait prolonger, que l'on pourrait revivre sans se lasser. Il y a des jours où l'on aimerait pouvoir stopper l'horloge du temps qui passe imperturbablement, mais comme on n'a aucune prise, ni sur le tic ni sur le tac, il faut bien se résigner et trouver d'autres solutions pour faire durer cette toute petite journée. Écrire, se rappeler, savoir utiliser l'expérience d'un moment, en faire profiter. Aujourd'hui, une journée banale, du tandem pour changer. Levé dans un village, Djendouba, couché dans un autre, Tabarka, entre les deux, une montée que l'on a maudite, une descente que l'on a bénie. Un tandem a cassé, la chaîne s'est vrillée, une heure pour réparer. Rien d'exceptionnel et pourtant, un jour comme ça, ça ne s'oublie pas. Quelle étrange alchimie a fait que ce jour m'a séduit ? L'humeur des quatre tandémistes ? L'ivresse de la vitesse ? L'endroit traversé ? Une parole échangée ? On nous avait prévenus. La tâche serait ardue. La réputation de la montée l'avait précédée. Alors, quand on a réalisé qu'on allait y arriver, la bonne humeur s'est fait sentir, on avait tous le sourire. Une fois de l'autre côté, c'est devenu plus aisé. Des courbes et des virages, des relances et des freinages. À l'avant, on plisse les yeux. À l'arrière, on fait de son mieux pour que sa position affine la direction. La vitesse est notre faiblesse. Et quand on est à deux, on se prend vite au jeu. Nous n'avons pas traîné. En à peine une journée, nous avons traversé une plaine cultivée et une montagne boisée pour nous retrouver devant la Méditerranée. L'endroit est surprenant, riche en rebondissements. À chaque virage, un nouveau paysage. À chaque observation, une nouvelle description. Une parole, enfin. Quand on vous dit que la participation à cette expédition redonne la foi en ses capacités et l'envie de se bouger, quant à la fatalité, Théo eût dit, en plus grossier qu'elle ne le regarde pas. Allez savoir pourquoi. Il y a des années que l'on souhaiterait prolonger, que l'on pourrait revivre sans se lasser. Il y a des années où l'on aimerait pouvoir stopper l'horloge du temps qui passe imperturbablement. Mais comme on n'a aucune prise, ni sur le tic, ni sur le tac, il faut bien se résigner et trouver d'autres solutions pour faire durer cette toute petite année qui nous aura marqués. Penser, se rappeler, savoir utiliser l'expérience d'un an, en faire profiter. Quelques journées seulement, sur cet autre continent, avant de retourner là-bas où on est né. Qu'est-elle devenue la France qu'on a connue ? Comment la retrouver après ce qu'on a vécu ? On en aura rêvé du jour de l'arrivée. Un repère assuré dans ces pays lointains où l'on ne sait pas très bien comment sera demain. L'Afrique m'a fasciné. Une terre de liberté. Partout où règne le thé, tu seras invité. La vie dehors, la place du sort. Le destin conduit le quotidien. Tes activités dépendent d'une destinée. Un brin de nostalgie dans ces lignes, un élan de synthèse. Décidément, la fin du voyage se fait de plus en plus sentir. Pourtant, notre boucle tunisienne et notre périple sont encore loin d'être finis. Après avoir rejoint la côte méditerranéenne, il nous reste à l'allonger jusqu'à Tunis, puis la traverser jusqu'à Marseille avant de remonter la vallée du Rhône jusqu'à Lyon. Là seulement nous pourrons regarder derrière nous le chemin parcouru. Karim nous rappelle à l'ordre. Pourquoi ne pas imaginer la moitié du parcours tunisien en bateau? Il a goûté aux joies du voyage itinérant et il ne compte pas s'arrêter à son initiation au tandem. Peut-être aussi parce que, malgré l'accoutumance, la selle le fait toujours souffrir, alors il imagine des moyens de transport plus confortables. Le bateau résoudrait à la fois son appétit de découverte et la sensibilité de son postérieur. Nous ne mettons pas longtemps à imaginer à notre tour. Pourquoi pas? Il existe une régate entre Marseille et Tunis, la route du Jasmin, et certains postes à bord peuvent parfaitement être occupés par des non-voyants. On pourrait aussi mettre dans nos soutes un ou deux tandems à destination d'antennes locales de l'Union nationale de Tunisie. Pas encore arrivés, nous nous voyons déjà repartis. Je continue à rêver, sans doute aussi par appréhension du retour. Nous entrons dans ce temps où nous ne sommes plus vraiment dans le présent, pas encore dans le passé, un peu dans le futur. Un futur rempli d'interrogations, remis en question par cette expérience africaine. Curieusement, si le quotidien de cette dernière année a été empreint de surprises, de découvertes et de liberté, notre programme et nos activités étaient déterminés. Toute notre énergie allait dans le sens du projet que nous avions conçu. Nous savions chaque matin pourquoi nous nous levions. Je me mets à imaginer le 7 juillet, lendemain de notre retour. J'imagine la joie de retrouver mes proches. J'imagine le vertige devant ce qui m'attend. Des études à finir dans un premier temps, et par la suite, une vie à construire en accord avec ce que je suis devenu. Vaste programme. Du mercredi 11 juin au dimanche 15 juin 2003. Tabarka, Tunis, la finale et le finish. Notre retour sur Tunis coïncide avec la finale de la Coupe de football de Tunisie. Nous nous rendons au stade à tandem et faisons une entrée discrète avec Cyrano et Noisette devant 20 000 spectateurs. Récompense de nos 15 jours d'efforts, nous pouvons suivre le match à quelques mètres des buts. Le rouge et le blanc du drapeau tunisien est partout, dans le stade, mais aussi sur tout le trajet qui nous ramène vers le centre de Tunis. C'est dans cette ambiance festive que nous faisons nos derniers tours de pédale avec Karim et Eddy. Quelques jours après notre arrivée, alors que nous nous retrouvons au siège de l'Union nationale des aveugles de Tunisie pour la cérémonie de clôture du Tour de Tunisie à tandem, Karim raconte à l'Assemblée. Moi, ce que je retiens de ce périple, ce sont trois images. Il met alors des mots d'une précision déconcertante sur les paysages qu'il a en tête. À l'entendre, on se demande comment il arrive à les décrire si précisément sans les avoir vus. Il a en fait tellement assimilé ce que nous lui avons dit en assortissant nos descriptions de ses propres émotions que les photos qu'il dépeint sont les siennes. Ces images lui appartiennent. Les au revoir à nos copilotes tunisiens sont éprouvants. Nous saluons deux amis, mais aussi un pays, un continent et un projet un peu fou qui touche à sa fin. 24 heures nous séparent du vieux continent. 24 heures sur le Carthage, le ferry qui relie Tunis à Marseille.